Mes chers amis, je vous invite à ouvrir votre Bible. Je suppose que les habitués de la maison, comme on dit, ont leur Bible avec eux. Parler de ma Bible et moi sans avoir sa Bible est un comble, hein? Alors nous avons nos Bibles et nous lisons le psaume premier, qui est donc le grand portail d'entrée du psautier, de ces cinq livres des psaumes, psaume premier, qui donne la tonalité, il donne les directions pour l'ensemble du psautier. Heureux, heureux, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite, ou plutôt très exactement, qui la murmure jour et nuit, qui la murmure. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Nous sommes donc ce soir à la fin de nos considérations d'ordre général. Nous avons hier soir, avec les amis qui étaient présents, certains d'entre vous prennent le train en marche. C'est toujours un peu délicat, hein, prendre un train en marche. Il ne faut pas rater la marche. Nous n'avons pas vu énormément de choses. Nous avons évoqué l'importance, ceci est indiqué, n'est-ce pas, de l'amour pour les Écritures. Nous avons pris quelques exemples à ce sujet pour pouvoir nous poser la question: quelle place occupe la parole de Dieu dans notre cœur? Et nous avons vu l'importance des Écritures. Pourquoi il importait que nous aimions la parole de Dieu? Nous avons évoqué le problème de la foi par procuration, c'est-à-dire cette habitude facile qui consiste à avoir la foi des autres, c'est-à-dire à vivre des convictions d'autrui, plutôt que de se forger peu à peu au contact personnel des Écritures dans la culture d'une piété personnelle, des convictions qui nous viennent de notre analyse de la parole de Dieu illuminée par le Saint-Esprit. Nous avons ensuite pris toute une série de textes bibliques fondamentaux qui nous parlent du rôle des Écritures, de l'inspiration des Écritures, et nous arrivons donc ce soir à ce moment où nous soulignons l'importance d'avoir des méthodes pratiques. Nous n'allons pas encore entrer dans le détail des méthodes. Celles et ceux qui, cet après-midi, de 17h à 18h45, ont planché ici, savent en tout cas ce que ça veut dire, hein. Certains ont attrapé quelques cheveux gris en plus, Parce que nous avons travaillé, hein? Croyez-moi, on a bien travaillé ensemble, mais je crois que nous nous sommes fait beaucoup de bien. La question, comment donc aborder cette vraie bibliothèque de 66 livres pour nous? 66 livres, je crois pour Dieu aussi, mais ce que je sous-entends quand je dis pour nous, c'est que on peut en mettre plus ou moins, mais avec le même contenu absolu et général, parce que vous savez que l'Ancien Testament, dans ses divisions hébraïques, ne compte pas le même nombre de livres que l'Ancien Testament de nos Bibles. Le contenu est exactement le même, mais les divisions ne sont pas les mêmes, et il y a une réduction en quelque sorte, parce qu'un certain nombre de livres ont été groupés pour ne former qu'un seul livre. Mais ceci est tout à fait secondaire. Nous sommes au clair quant à la composition générale des Écritures. Nous n'acceptons pas ces livres particuliers de l'Ancien Testament qu'on appelle les livres apocryphes, qui n'ont jamais été reçus et acceptés par le peuple juif. Ça, c'est une des raisons fondamentales. L'Épître aux Romains dit que c'est aux Juifs que les oracles de Dieu ont été confiés. C'est une des grandes vocations du peuple juif de nous donner la parole de Dieu. Et ils ont indiqué, conduits par le Saint-Esprit, les limites de ce qu'on appelle le canon des Écritures, c'est-à-dire des livres reconnus comme véritablement inspirés de Dieu. Il y a toutes sortes d'autres raisons encore, parce que ces livres apocryphes dont on parle n'ont pas été cités ni par le Seigneur Jésus, ni par les apôtres. Et puis alors, il y a des dissonances très très fortes, des contradictions extrêmement fortes. Et d'ailleurs, disons-le, les livres apocryphes de l'Ancien Testament n'ont pas toujours été même reconnus au sein du catholicisme, par exemple. Et c'est essentiellement ce grand concile de la contre-réforme, le concile de Trente, qui s'est étagé, qui a travaillé sur une vingtaine d'années à peu près, avec bien des difficultés, parce qu'on avait du mal à réunir tous les évêques et cardinaux de l'époque, et c'est lui donc qui a donné une autorité certaine à ces livres apocryphes, parce qu'ils contenaient des hérésies inacceptable et qu'il fallait bien trouver moyen de justifier ces hérésies par certains textes qui ont été donc reconnus finalement comme canoniques, comme inspirés au second degré. Je n'entre pas dans tous les détails. Comment aborder cette vraie bibliothèque de 1189 chapitres? Un de plus ou un de moins, là aussi, suivant le découpage dans nos versions, 31 000 versets, 3 millions de lettres. Impressionnant, hein? Importance donc d'avoir des méthodes pratiques. À commencer, avons-nous dit, et on ne va pas oublier, on ne peut pas oublier ça, à commencer par la mémorisation de l'ensemble des livres de la Bible. Alors, qui, depuis hier soir, a passé une partie de la nuit dernière à mémoriser les livres du Nouveau Testament? Son épouse ou l'époux qui n'était pas à la réunion s'est demandé si le soleil n'avait pas été trop brûlant durant la journée en entendant dans un demi-sommeil une langue très étrange. Ah, qui a essayé? Si vous n'avez pas essayé, oh, quelqu'un a essayé. Est-ce que vous réussissez ce soir? Je veux bien vous aider. Ah, oui. Ah, oui, oui. Merci. Vous refermez vos Bibles. Merci. Ah, oh, oui, c'est comme à l'école du dimanche. Hein. De toute façon, nous sommes de grands gosses. Alors, on y va? On ne triche pas. Hein. Nous faisons ça de temps en temps le soir à la maison. Hein. Et les enfants réclament ces moments. Hein. Alors, 2 Corinthiens 11, 2, le premier, 2 Corinthiens 11, 2. Le rappelez-vous, un rococo? Oui, là. Alors donc, nous allons parler de méthode, Et nous disons ceci simplement, c'est que les méthodes sont à adapter. On va remettre ceci. Les méthodes, nous l'avons dit cet après-midi déjà, les méthodes que nous verrons entre aujourd'hui et demain sont à adapter. C'est un complet de série à faire retoucher par mon tailleur personnel. Personnaliser les méthodes. Alors certains, je l'ai déjà laissé entendre, ont tendance à critiquer les méthodes. Ils pensent que les méthodes, c'est pas assez spirituel. J'ai expliqué cet après-midi que il y avait dans les Écritures même des méthodes. Par exemple, la manière dont certains livres ont été écrits montre qu'il y a des méthodes qui ont été utilisées, que le Saint-Esprit a donc inspiré des hommes de Dieu pour qu'ils utilisent cette méthode afin de permettre une meilleure mémorisation des Écritures. Ces psaumes qu'on appelle les psaumes acrostiches, ou les psaumes alphabétiques, etc., n'est-ce pas? J'ai expliqué cet après-midi comment, lorsque le juif, et vous avez peut-être vu cela déjà dans des synagogues, lorsqu'il psalmodie, lorsqu'il récite ou qu'il lit certains passages de l'Ancien Testament, vous savez qu'il fait sa gymnastique, hein? Tantôt ainsi, tantôt dans l'autre sens, et on sait que cela appartient à des méthodes, il y a donc une méthode de gestes, gestuelle, qui est importante parce qu'elle facilite notamment la mémorisation. C'est Moody, l'évangéliste et revivaliste Moody, qui était critiqué pour ses méthodes. Et on avait tendance à le taxer d'orgueil à cause d'utilisation de méthodes. Alors il répondait ceci simplement, mais vous savez, moi je ne suis pas si fier de ma méthode. Mais j'aimerais vous poser une question, quelle est donc la vôtre? Je préfère encore ma mauvaise méthode de faire quelque chose à votre excellente manière de ne rien faire du tout. Souvenons-nous de cela. Il est terriblement facile de critiquer les méthodes de ceux qui en ont, pour mieux se complaire dans la passivité et dans l'absence d'engagement. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de d'ériger les méthodes en idole. C'est vrai que les stratégies et les méthodes peuvent remplacer le Saint-Esprit. Mais ce qui est encore mieux, c'est quand on peut soumettre méthodes et stratégies au Saint-Esprit, puis lui laisser la liberté de bousculer cela, de le changer, si il le trouve bon. C'est ma première remarque. Une deuxième remarque, ces méthodes sont à utiliser progressivement. Je vous donne, au cours d'un week-end, et encore de manière très résumée, toutes sortes de méthodes, mais ce sont des méthodes qui ont été élaborées dans ma vie personnelle sur, disons, actuellement, entre 25 et 30 ans. La méthode que nous avons vue cet après-midi de mise sur fiche a été la toute dernière méthode mise au point, donc au début de 1977. Il est évident que si nous voulions tout absorber d'un coup et tout pratiquer d'un coup, vous imaginez les problèmes que nous aurions. Donc, il importe, et cela nous le reverrons demain, notamment demain après-midi, il importe de commencer par ce qui est plus simple, par le commencement, par le béaba, et je vous montrerai par quoi commencer et comment vous y prendre de manière à ne pas être affolé et abandonner très rapidement. Très souvent, on abandonne avec les questions de méthode parce qu'on veut démarrer à 200 à l'heure. Mieux vaut faire peu, démarrer avec modestie, et puis peu à peu, ajouter une méthode à une autre pour aller un peu plus loin. Et puis, le Seigneur peut nous montrer une approche tout à fait personnelle. Je vais vous raconter très brièvement comment le Seigneur a fait pour mon épouse, qui vous l'aurait dit elle-même si elle avait été ici aujourd'hui, parce que l'aurait aimé d'ailleurs, mais nous étions déjà en voyage ensemble il y a une petite semaine à peine, donc il fallait quand même être à la maison pour s'occuper de nos quatre mousquetaires, nos trois filles et notre garçon. Mon épouse, donc, qui fait équipe avec moi dans le service, qui a une vocation aussi, qui a eu elle-même une formation théologique, et qui a reçu un don essentiellement dans la formation au travail parmi les enfants, a donc beaucoup travaillé avec moi dans le cadre d'une église qui était en train de passer du stade de poste pionnier à église majeure. Nous avons vu cette église peu à peu devenir une église majeure. On a suivi toutes ces étapes. Et au fur et à mesure que l'église grandissait, et donc nous sollicitait, d'autant plus que nous habitions un logement de fonction qui était contigu à la chapelle et aux logements annexes, et vous savez que quand on habite comme ça à cet endroit, et que nous étions la seule église et évangélique et même protestante de toute la ville, même les services municipaux et sociaux, gendarmerie, hôpitaux nous envoyaient ceux avec lesquels ils avaient des problèmes en pensant qu'on pourrait aider quelque peu. Alors, cela voulait dire parfois du nuit et jour, les gens qui viennent chercher du travail à 2 heures du matin, ce n'est pas toujours très agréable. Donc je demande pourquoi ils viennent à cette heure-là. Et au fur et à mesure aussi que nous avancions, que l'église grandissait, notre famille grandissait aussi. Hein. Ça commence comme dans toutes les familles, avec un enfant, puis il y en a un second, puis il y en a un troisième, enfin bref. Et mon épouse a connu les problèmes de toutes les épouses qui ont une vie de famille qui se développe et qui exerce en même temps un service dans le cadre de l'église, qui seconde leur mari. Ça a été, à un moment donné, l'impossibilité de faire face à tout de front. La nécessité de lâcher un certain nombre d'activités en considérant que la famille et les enfants étaient la première vocation d'une maman. Fatigue, envie de s'endormir quand on lit la Bible pour sa méditation, dont nous allons parler tout à l'heure, combien de mamans ont connu cela? On se lève le matin, on expédie tout le monde à l'école, et le mari dans son travail, et puis on essaye de méditer, puis on est fatigué. Et puis on s'endort, le nez plongé dans la Bible. Ça fait bien, les autres croient qu'on prie, mais enfin c'est pas tout à fait ça. Et finalement ça a vraiment inquiété mon époux. Parce qu'elle voulait vivre sa vie de piété personnelle, et elle se rendait compte aussi que son temps de méditation était gâché par la fatigue. Alors elle a fait ce que j'expliquais, ce que j'ai fait en 76, dans une situation difficile. Elle a dit, écoute Seigneur, tu vois ma situation, tu la connais, elle n'était pas étrangère. J'aimerais tellement que tu me montres comment je pourrais faire pour avoir la victoire sur mon état, sur ma fatigue, et pouvoir vraiment recevoir de toi quelque chose quand je médite chaque matin. Et le Seigneur, de manière très claire, lui a dit, eh bien, copie ma parole. Et elle a ouvert un classeur, et elle a commencé simplement, jour après jour, à copier, chapitre après chapitre, des livres de la Bible. Et elle a pu témoigner des dizaines de fois depuis, dans des réunions de dames ou à l'occasion de conventions et en d'autres lieux, combien cela lui avait fait. Cela la tenait éveillée, et puis elle m'a dit combien de fois, mais tu sais que je suis en train d'écrire, vraiment le Seigneur me fait découvrir des choses que je n'aurais jamais vues si je ne les avais pas écrites. Et cela lui a fait un tel bien qu'une fois que la situation a évolué, qu'elle s'est sentie mieux, moins fatiguée, elle n'a pas du tout renoncé à copier la Bible. Et elle continue maintenant à copier la Bible, et ça fait donc maintenant à peu près près d'une quinzaine d'années qu'elle copie systématiquement les Écritures. Et maintenant, elle a copié la moitié de la Bible, comme ça. Et elle continue chaque jour à ouvrir ses classeurs et à écrire. Alors, il m'est arrivé souvent de raconter à sa place, quand elle n'est pas avec moi, ce témoignage, parce que ça a été utile à plus d'une sœur. Combien de chères mamans ai-je vu dans des réunions ou après des réunions hocher du bonnet, hein, en disant, mais c'est tout à fait ma situation, je suis tellement fatiguée et je me culpabilise parce que j'ai l'impression que je ne retiens rien, je médite, je m'endors, etc. N'est-ce pas? Alors peut-être que Dieu peut guider quelqu'un d'entre nous vers la copie de la parole de Dieu. Et Dieu bénira de cette manière. Je crois que ce que Dieu veut voir chez nous, c'est une soif de l'eau. Si nous avons soif au sein de notre plus profonde ignorance, si nous avons soif de chercher Dieu, Dieu nous fera des cadeaux. Ou que nous lui disions, Seigneur, je ne suis pas motivé. Si c'est le cas, mieux vaut le lui dire. Seigneur, vraiment, je suis à sec, j'ai vraiment besoin d'être modifié, j'ai besoin d'une révélation d'en haut dans mon cœur. Ça ne marche pas, je suis desséché, je veux te le dire, Seigneur, et je veux que ça change dans ma vie. Et je veux commencer à étudier, à lire ta parole comme jamais auparavant, mais j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de l'action de ton esprit dans ma vie. Moi, je vais faire acte de volonté pour me placer de ton côté, parce que c'est une obéissance, tu t'adresses à ma volonté. Alors, je vais me situer dans ton camp, et ne pas vivre simplement avec mes sentiments en attendant que je sente quoi que ce soit. Seigneur, fais-moi cadeau. Montre-moi une méthode qui me convienne dans ma situation. Et quand nous avons vraiment soif, quand nous voulons vraiment aller dans cette situation, Dieu est capable aussi de nous apporter des réponses tout à fait précises à notre prière pour le chercher dans sa parole. Un point encore qui est important, viser le bon objectif. Viser le bon objectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous faut nous souvenir que la clé de la compréhension des Écritures, je viens de le souligner au passage, la clé de la compréhension des Écritures, c'est le Saint-Esprit. Livrer au simple fonctionnement de nos méninges, nous n'allons pas loin. Moi, je me rends compte, plus j'avance dans ma vie avec le Seigneur, dans le service pour lui, combien nous avons besoin d'être dépendants en permanence du ministère du Saint-Esprit dans nos cœurs. Le ministère du Saint-Esprit, justement, en relation avec la parole de Dieu. Lorsque nous vivons cette réunion ce soir, je ne sais pas si nous réalisons que le Saint-Esprit en ce moment est à l'œuvre, tout d'abord dans ma vie, pour me rendre capable de ne pas dire trop de bêtises, pour que je puisse parler le plus possible dans la pensée de Dieu en me laissant diriger par lui et selon les Écritures, et qu'il est à l'œuvre en chacun d'entre nous qui mettons notre confiance en lui, pour que nous puissions au maximum bien capter la pensée de Dieu telle que je suis en train de l'exprimer. Et il est en plus à l'œuvre dans ceux d'entre nous qui ne connaîtraient pas encore Jésus-Christ, il est à l'œuvre pour que nous soyons vraiment sensibles à ce message absolument fantastique de la parole de Dieu. Nous ne réaliserons jamais assez l'importance du ministère du Saint-Esprit pour nous donner les clés de la compréhension de la pensée de Dieu dans les Écritures. Et c'est pour cela, comme nous allons le voir, que quand nous méditons les Écritures, quand nous nous plaçons devant le texte de la parole de Dieu, il faut le dire à Dieu. Dieu aime qu'on lui dise que nous sommes incapables de comprendre en dehors de lui. Et c'est la première des démarches. Vous savez, l'existence des sectes, des déviations, des courants sectaires est souvent liée à l'orgueil de l'homme face aux Écritures. De l'homme qui vient avec ses gros sabots pour imposer à Dieu et au Saint-Esprit sa pensée dans les Écritures. Au lieu de venir simplement, humblement, en plaidant, n'est-ce pas, notre ignorance, en disant « Seigneur, je suis un ignorant et je me rends compte qu'avec toutes mes facultés, indépendamment de l'action du Saint-Esprit, je risque de dévier, de faire des bêtises, de dire des bêtises, de diviser le corps de Christ ». De lancer des idées complètement erronées en contradiction avec ta pensée et de faire des dégâts terribles. Alors Seigneur, je viens te le dire et je te supplie de m'accorder une révélation claire de ta pensée pour que j'aille vraiment dans ta direction. Vous avez ce texte important, nous voulons étayer nos affirmations. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 12. Vous savez, ça, c'est cette introduction de 1 Corinthiens est très importante dans le contexte de l'église de Corinthe. Parce qu'il existait des écoles de sagesse et de philosophie à Corinthe qui étaient très importantes. La philosophie corinthienne était très, très, très estimée, était très célèbre. Toute la sagesse du langage, tous ces courants de philosophie religieuse, ces émanations, ces constructions de l'esprit humain occupaient une place absolument fantastique. Et l'apôtre Paul, quand il parle dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 6, dit des choses absolument révolutionnaires, en contradiction fondamentale, en opposition flagrante avec le système de pensée et même de perception de ce qui venait des divinités païennes dans le monde grec. Et vous avez ces versets 10 à 12, où il est dit, oh, je vais lire déjà au verset 9, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Je ne sais pas si vous n'avez jamais été frappé par le souci de l'apôtre Paul en permanence de souligner que ce qu'il avait reçu, il avait reçu par révélation. Il allait là absolument à contre-courant de toutes les sophias, de toutes les sagesses du monde grec qui l'entourait, n'est-ce pas? Et le christianisme est une révélation fantastique. Je bénis Dieu de ce qu'un jour il ait plu à Dieu d'ouvrir mon esprit aux choses d'en haut, pour que je les comprenne comme Dieu veut que je les comprenne. C'est un cadeau fantastique. Et c'est ça la grâce. Ce n'est pas nous qui avons élaboré le système de ce que nous croyons, n'est-ce pas? C'est un cadeau qui vient de Dieu. Un jour, mes yeux se sont ouverts. Un jour, le voile est tombé. Un jour, des choses que je n'arrivais pas à comprendre ou que je comprenais de travers sont devenues d'une clarté absolument fantastique par un miracle, celui de cette illumination intérieure par le Saint-Esprit, en accord avec la parole. Vous avez Luc 24, 45, qui est aussi un très beau passage. Luc chapitre 24, verset 45. Nous avons lu partiellement ces versets, mais cette expression du verset 45, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et puis alors, vous avez ce beau texte de Matthieu 11, auquel je faisais indirectement allusion il y a un court moment, Matthieu 11, verset 25, qui a fait tressaillir Jésus de joie. Il a eu un tressaillement d'allégresse en pensant à ce phénomène absolument fantastique de la révélation d'en haut et aux conditions qu'il fallait remplir pour que cette révélation ait lieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Mes amis, ça va en contradiction avec tout le courant actuel, y compris parfois dans nos milieux évangéliques. Quand je vous disais hier que la parole de Dieu est pour tous, que vous ayez un bac, deux bacs, trois bacs, ou que vous n'ayez rien du tout, n'est-ce pas, c'est pas ça ce qui compte. Ça ne veut pas dire que nous devons nous complaire dans l'ignorance et dans la passivité. Mais cela souligne, n'est-ce pas, que ces choses sont révélées aux enfants. Aux enfants. Et vous savez combien on peut être érudit et dire de bêtises. Combien on peut être instruit et peu sage. La sagesse étant le bon sens de l'intelligence. L'exploitation sur le terrain pratique de l'intelligence que Dieu nous a donnée. D'ailleurs, sapiens, qui est le vieux mot sagesse, vient d'un terme latin, sapere, qui voulait dire avoir du goût, goûter. Et en réalité, c'est un sens, la sagesse. C'est le sens, ce sont les papilles gustatives de l'intelligence. Hein? L'application de l'intelligence sur le terrain. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bon en surface ou est-ce que c'est aussi bon? Et est-ce que c'est aussi bon en dedans, n'est-ce pas? C'est très important ceci. Tu as caché ces choses aux sages, donc de ce monde, aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Condition fondamentale, sine qua non, pour que Dieu ouvre sa parole au cœur de l'âme. Venir dans la juste attitude, non à l'intellectualisme, à l'orgueil, au légalisme. C'est Tommy Fallot qui a été une personnalité marquante du protestantisme français au siècle dernier, qui disait ceci, ne lis pas la Bible pour devenir plus savant. Mais pour devenir meilleur, pas dans le sens d'une amélioration de l'hippopotame moi, hein, du vieil homme. Le vieil homme est crucifié, c'est pas ce qu'il voulait dire, il faut bien comprendre. Ne lis pas la Bible pour devenir plus savant, mais pour devenir meilleur. Pour que le nouvel homme grandisse en toi, et que ce qu'on voit Christ se développer dans ton caractère. La Bible ne dit rien à qui ne se soucie pas de la pratiquer. Qui refuse d'agir, renonce à comprendre. Et vous savez que si nous n'exploitons pas dans l'obéissance ce que Dieu nous révèle, Dieu cesse de nous révéler de nouvelles choses. Dieu est un bon pédagogue. Il veut d'abord que nous assimilions au niveau de notre être intérieur et dans la pratique ce qu'il nous a révélé. Et que nous nous promenions pendant un certain temps même dans la sphère de ce qu'il nous a révélé, pour que vraiment ça passe dans notre expérience propre, dans la sphère de notre vie, de tous les jours. Et ensuite, il nous ouvre une nouvelle sphère de révélation. Si nous ne voulons pas, nous devons réapprendre notre leçon, jusqu'à ce que nous l'ayons appris. Et c'est pour cela qu'on peut être chrétien depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et continuer à être au béaba. Même en ayant acquis des connaissances cérébrales énormes, mais ne pas pouvoir exploiter cela, n'est-ce pas? Et le voir se dévaluer. Parce que, pour que quelque chose ait de la valeur, il faut que ce soit mis en pratique afin que Dieu puisse continuer à nous instruire. Calvin, dans le langage de l'époque, a dit aussi une parole remarquable. La parole de Dieu n'est point pour nous apprendre à babiller ou pour nous rendre éloquents et subtils, mais pour réformer nos vies. Pas pour nous apprendre à babiller. Et c'est Bengel, un théologien allemand, qui disait ceci, « Applique-toi pleinement aux Écritures, applique-toi pleinement les Écritures. » Vous saisissez la nuance. On s'applique d'abord aux Écritures, quand on étudie la parole de Dieu, quand on la lit, quand on vit une réunion comme celle-ci, quand on la médite. Et ensuite, on applique les Écritures à sa propre vie. Ça, c'est le genre de parole à indiquer dans la page de garde de notre Bible et à relire de temps en temps, parce que nous oublions très vite. Trois prédicateurs s'entretenaient de leur préférence pour les différentes versions de la Bible. Et l'un d'eux insistait en disant, et c'était en Grande-Bretagne, « J'aime la version du roi Jacques, King James, parce qu'elle est traduite en simple et bel anglais. Je préfère la version standard américaine parce qu'elle sert de plus près l'original hébreu et grec, disait le second prédicateur. » Alors, se tournant vers le troisième prédicateur qui avait gardé le silence jusque-là, il demanda, Quelle version de la Bible préférez-vous? Je préfère la traduction de ma mère. Elle traduisait la Bible dans sa vie. C'est la plus convaincante que j'ai jamais vue. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Je pense à ce qu'a dit cet auteur remarquable, Meyer, qui donne le conseil suivant: lisez la Bible, non comme un journal, mais comme une lettre d'un être cher. Si vous y trouvez une promesse, comme un chèque en blanc, caissez-le. Si une prière s'y trouve, faites-la vôtre et lancez-la comme une flèche provenant de l'arc de votre désir. Si un exemple de sainteté s'y présente, demandez à Dieu de faire la même chose pour vous. Voyez ? Que la parole de Dieu s'incarne dans notre vie. Je pense à ce gosse qui était monté dans sa chambre un dimanche soir, plutôt que de coutume, pour lire la Bible. Et il était tellement anormalement tranquille, vous savez ce que ça veut dire, hein, les enfants anormalement tranquilles. Quand on n'entend plus rien, on doit se poser un tas de questions. Hein. Alors sa maman était bien sûr très inquiète, et elle lui demande: « Mais que fais-tu, Germain ?» Et Germain de répondre: « Mais je regarde Jésus ressusciter Lazare d'entre les morts. » C'est beau, hein? Il était en train de lire Jean 11 et il avait trouvé cette expression: « Je regarde Jésus ressusciter Lazare d'entre les morts. » Il était dans le texte. Il vivait le texte, il collait au texte. Il avait l'impression d'être là avec la foule devant le tombeau. Ça ne devait pas être d'ailleurs très agréable. Je suppose qu'il avait un mouchoir sur le nez à ce moment-là. Mais ça, c'est un autre problème. Est-ce que certains d'entre vous ont commencé, je crois que quelqu'un a commencé, il me semble avoir entendu un témoignage depuis hier soir, est-ce que vous avez commencé l'analyse du psaume 119 et donc la recherche de tous ces verbes qui montre comment nous devons agir vis-à-vis de la parole de Dieu? Qui a commencé? C'est quelqu'un. Oh, en voilà 2, 3, 4, c'est merveilleux, 5. Il faut que je revienne plus souvent ici, c'est intéressant. Est-ce que vous avez déjà fait des découvertes intéressantes? Il y a des choses fantastiques. Hein? Où en êtes-vous? Vous êtes déjà loin? Quelqu'un était à 40 versets à peu près. C'est vous qui êtes... Oui, c'est ça. Qui est allé plus loin encore? Oh, mais... Vous connaissez le livre et la tortue, hein? Continuez, hein, je vous encourage. Je ne vous donne pas les détails. Hein. Je vais vous donner une idée. Hein. D'accord, mais volontiers. Je ne voudrais pas que vous partiez contrarié à la maison ce soir. Voilà. Alors... Je redis pour les autres amis, il s'agit d'une lecture de l'ensemble du psaume 119, au cours de laquelle vous notez sur une feuille tous les verbes qui sont en relation directe avec l'approche de la Bible. Vous avez une quantité de verbes. C'est le détail que je vous ai donné, vous en avez une bonne soixantaine. Une bonne soixantaine de verbes différents les uns des autres, dont certains sont répétés 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, et qui sont généralement des verbes très, très pratiques, qui nous donnent toutes sortes d'idées quant à la manière d'approcher les Écritures personnellement, jour après jour. Alors vous notez simplement sur une feuille le nouveau verbe, chaque fois que vous découvrez un nouveau verbe, et chaque fois que vous voyez un verbe déjà indiqué, vous mettez le verset entre parenthèses à côté du verbe déjà indiqué, de manière à ce que vous puissiez ensuite compter le nombre de fois que chacun de ces verbes revient dans le texte. Et vous verrez que, notamment, aimer la parole de Dieu est un des points essentiels, ou faire ses délices de la parole de Dieu est un des points essentiels. Il y en a quelques autres qui sont très très importants, comme observer avec soin. Il y a des petites précisions dans le texte qui sont très importantes. Alors je vous encourage à le faire, et je répète ce que je disais hier soir. Si le Seigneur vous fait du bien, d'une manière particulière en faisant ce travail, vous m'envoyez un petit mot en disant, voilà, dans tel domaine, le bien que le Seigneur m'a fait. Je garde ce courrier, je ne vous mentionnerai pas personnellement, mais il peut m'aider, moi, dans mon enseignement, à en encourager d'autres à faire ce même travail. Vous savez, rien de tel qu'un témoignage personnel bien vécu pour encourager quelqu'un d'autre aussi à aller dans la même direction. Donc l'importance de s'approcher de la parole de Dieu pour connaître Dieu. Pour connaître Dieu. On peut être un bibliolâtre, on l'a dit hier. On peut avoir un esprit de compétition dans l'étude de la Bible pour l'étude de la Bible. Vous savez que les meilleurs exercices spirituels peuvent devenir les pires ennemis du croyant, et en tout cas du Seigneur. On peut prier pour prier, on peut faire des exercices de foi pour la foi. On peut louer le Seigneur pour louer le Seigneur, on peut étudier la Bible pour étudier la Bible, et on peut venir à l'église pour venir à l'église. Et nous devons nous souvenir, n'est-ce pas, que aucun acte, fût-il le plus spirituel, n'a de valeur intrinsèque, c'est-à-dire en lui-même. Il n'y a pas de vertu, comme dans les sacrements à l'intérieur de certains dogmes catholiques, n'est-ce pas? Il n'y a pas de vertu en soi-même. Ce qui fait la valeur de l'étude de la parole de Dieu, ce sont les motivations qui m'animent. Est-ce que c'est la recherche de Dieu? Est-ce que c'est l'honneur de Dieu, la gloire de Dieu, la transformation à l'image de son Fils, le développement du caractère de Fils de Dieu, le développement en nous d'une vie qui s'appuie sur des principes spirituels reconnus dans les Écritures? Ou bien est-ce que c'est l'esprit de compétition ou je ne sais quoi, n'est-ce pas? Et nous devons régulièrement, non pas dans une introspection morbide où nous sommes toujours en train de creuser en nous-mêmes, n'est-ce pas, mais simplement devant le Seigneur, nous devons régulièrement faire le point pour voir si nous ne sommes pas en train d'ériger en idole certains actes spirituels par esprit de compétition ou je ne sais quoi d'autre, parce que c'est très vite fait dans notre vie personnelle. On se laisse vite emporter, n'est-ce pas? Alors visons bien dans ce domaine, surtout dans le cadre d'un week-end comme celui-ci. C'est Steinberger ou Steinberger quand on est en Alsace, n'est-ce pas, il ne faut pas se tromper, qui a dit ceci: il faut que la lecture de la parole crée en nous un principe divin. Tous ceux pour qui la lecture de la Bible s'accompagne d'une bénédiction sont des hommes mus par des mobiles et des principes divins. Daniel était un lecteur de la parole et il avait des principes divins. Tout jeune garçon déjà, il arriva à Babylone bien décidé à ne pas se souiller par les mets de la table royale. Et parce qu'il resta fidèle à ses principes divins, il eut une influence bénie. Ses amis participèrent à son abstinence. C'est ainsi que la parole de Dieu est plantée en nous, Jacques 1, 21, et devient une loi vivante, Hébreux 10, 16, réglant ainsi notre vie entière selon ses lignes divines. Et c'est très important cela. Nous avons trop tendance à agir un petit peu au coup par coup. Et à ne pas avoir dans nos vies une colonne vertébrale avec des lignes directrices selon la pensée de Dieu. Et quand quelqu'un se convertit à Jésus-Christ, il importe que dès sa conversion, on l'enseigne Bible en main concernant un certain nombre de principes bibliques importants pour la suite de la vie, de sa vie. Dans le domaine du mariage, s'il n'est pas marié, dans le domaine de la sexualité, dans le domaine de la recherche de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Il y a des principes spirituels qui courent tout au long des Écritures, et il est important que l'on démarre bien dans ce domaine avec le Seigneur. Ensuite, nous allons un peu plus loin, et ce n'est pas le moindre des verbes, importance de persévérer. Persévérer. Persévérer quand on étudie, quand on médite, quand on court tout au long des Écritures. Il faudrait que nous nous retrouvions dans un certain temps pour voir où nous en sommes. Vous savez combien de résolutions on prend que l'on tient pendant un certain temps, et puis on s'arrête. Et puis, 2 années, 3 années plus tard, on retraite le même sujet, et puis on se surprend à vivre dans le regret, parce qu'on se dit, mais si seulement je ne m'étais pas arrêté il y a 2 ans en cours de route, maintenant je serais tellement plus loin. Combien d'amis m'ont laissé entendre cela en ce qui concerne l'étude personnelle des Écritures? Ils avaient commencé à souligner la parole de Dieu, à mettre des annotations, à étudier systématiquement, et puis ils se sont lassés. Puis les années ont passé. Et puis un jour, ils vivent un certain regret, parce qu'ils se rendent compte que, dans ce domaine, ils auraient pu aller beaucoup plus loin. Vous connaissez certainement l'histoire des 2 grenouilles tombées dans une jatte de crème. Elles étaient très fortes en âge, et elles se sont mises à nager, mais de tout leur cœur. Puis au bout d'un certain temps, ça glissait tellement que l'une des 2 grenouilles se dit, oh, j'en ai assez, je n'en peux plus. Chaque fois que j'essaye, ça glisse. Et elle s'est donc laissée couler au fond du pot et bien sûr est arrivé ce qui devait arriver. L'autre, opiniâtre, de continuer de brasser encore si bien. Elle se retrouva sur une motte de beurre et put sauter à l'extérieur. Persévérer. Et vous savez, c'est comme quand on apprend une langue, hein, ou quand on fait de la musique. Il y a des paliers. Pendant un certain temps, on a l'impression qu'on n'apprend rien, on piétine, c'est difficile, on est dans l'ABC, on se demande à quoi ça va servir. Et puis, il y a des déclics. Hein. Il arrive un moment où, mais c'est extraordinaire. Subitement, on se met à faire des progrès fantastiques, et puis il y a un nouveau palier. Et ce sont ces paliers qui sont difficiles à vivre. Mais plus on avance dans l'approche personnelle des Écritures, mes amis, plus on en a besoin. Et cela, il faut le dire. Il faut le dire. On se fait dans la... à long terme, comme si l'on devait durer éternellement et de se comporter dans la vie quotidienne comme si l'on devait mourir demain. Et il y en a qui ne veulent pas étudier la Bible systématiquement avec ces méthodes parce qu'ils disent le Seigneur va tellement vite revenir que mon fichier, à quoi ça servira? Mais c'est faux. Imaginez, je suis converti à Jésus-Christ par la grâce de Dieu depuis l'âge de 11 ans. Imaginez que pendant des années, j'ai dit, mais le Seigneur va revenir, ça ne vaut vraiment pas la peine que je me mette à étudier sérieusement la Bible. Eh bien, je ne serai pas là ce soir. Et nous n'aurions pas tout un enseignement sur ce thème. C'est dommage, n'est-ce pas? Bien sûr que j'attends avec vous, j'espère que vous l'attendez, hein, c'est ce retour de Jésus-Christ. J'ai hâte d'être avec lui. Et plus on avance, plus on a hâte d'être avec lui pour l'éternité, quand on voit la situation de ce monde. Mais en même temps, il faut se dire que nous ne savons pas. Nous avons des éléments, des indices qui nous disent que le temps est court, le temps est proche, il revient vite. Mais en attendant, même si ça ne dure qu'un an, en un an, on peut en faire des choses. Et si ça ne dure que 6 mois? Et si même le retour du Seigneur est demain, ça vaut la peine de commencer ce soir, parce qu'on se fera déjà du bien ce soir et cette nuit, n'est-ce pas? Alors je crois que c'est important ceci. Je vous laisse finalement, avant d'aborder une première approche de la Bible, une citation intéressante de Spurgeon, qui a dit ceci, « Alors que j'étais assis sous un hêtre de taille imposante, j'admirais cet arbre splendide entre tous et je me disais, je suis loin d'apprécier ce hêtre autant que l'écureuil. Je le vois sauter de branche en branche et je suis certain qu'il a beaucoup d'affection pour ce vieux hêtre, parce que quelque part, dans un des creux de l'arbre, il a sa maison. Les branches lui servent d'abri. Et les faines sont sa nourriture, il vit de l'arbre. L'arbre est toute sa vie, son terrain de jeu, son grenier, sa maison. En fait, il est tout pour lui. Mais il n'en est pas de même pour moi, car je trouve le vivre et le couvert ailleurs. Nous ferions bien d'imiter les écureuils en ce qui concerne la parole de Dieu, en y demeurant et en y vivant. Exerçons nos esprits en sautant de l'une à l'autre de ses branches, trouvons-y le gîte et le couvert, et faisons-en ce que nous avons de plus cher au monde. Nous serons parmi ceux qui en retireront un grand profit si nous faisons d'elle notre armure, notre repos, nos délices. Que le Saint-Esprit nous y aide et qu'il rende la parole précieuse à nos âmes. Et j'ai là une citation très très belle d'une femme de Dieu, d'une femme catholique. C'était un couple qui a été remarquable dans l'approche des Écritures. Ils ont d'ailleurs adopté des positions qui étaient tout à fait finalement en porte-à-faux avec les dogmes du catholicisme. Il s'agit de Madeleine Schall. Et elle a écrit ceci: « Garde-toi du temps pour lire ta Bible, pour prier avec elle et par elle. Ne gaspille pas toutes tes heures de loisirs en écoutant la radio, en lisant de nombreux journaux ou des romans. Consacre à ta Bible une partie de ces heures. Lis avec attention, avec esprit de prière, avec suite et persévérance, sans découragement. La parole de vie peut parfois submerger l'âme comme un torrent, mais le plus souvent, elle ne tombe que goutte à goutte sur la pierre de notre cœur afin de la creuser. Il faut un long temps pour creuser une pierre. Un torrent passe rapidement sur les cailloux. Au plus, il les polit, mais il ne les creuse pas. Or, si avec persévérance, tu te penches sur le livre, saint, s'il ne quitte plus tes mains, comme l'a si souvent recommandé Jérôme, alors l'eau vive de la parole biblique, qui est celle de Dieu, celle de Jésus-Christ, tombant goutte par goutte, fera en toi un travail profond. » Oh, que j'aime ce texte. Surtout venant d'une personne issue de ce milieu, mais qui a découvert avec son mari la parole de Dieu, et tous deux ont écrit ensuite des choses remarquables sur Israël et les nations, etc. Alors maintenant, nous allons, comme je l'annonçais hier soir, dans les trois approches complémentaires qui vont nous intéresser jusqu'à demain après-midi. Les trois approches complémentaires des Écritures. Je l'ai dit hier soir, notre vie personnelle doit courir sur trois rails concernant la Bible et moi. Il doit y avoir dans nos vies à chacun ces trois dimensions d'approche de la Bible. Elles sont complémentaires. La première nous est indiquée ici. Il s'agit donc de ce que j'ai appelé le cœur à cœur. On pourrait utiliser le terme méditation, mais vous savez qu'on doit devenir prudent avec l'utilisation de certains termes. Le terme méditation a pris tellement de sens un peu dangereux que, bon, quand on est entre croyants qui se comprennent, utilisons-le. Mais quand nous sommes en présence de ceux qui ne connaissent pas Christ, avec la montée de certains mouvements dangereux, il faut bien expliquer les choses. Alors, il y a le terme dévotion, qui vient de l'anglais, mais ça sonne un petit peu étrange, n'est-ce pas? Mais c'est un terme qui veut dire ce qu'il veut dire. Le cœur à cœur ou le tête à tête. Le tête à tête avec le Seigneur. J'appelle ça aussi l'approche par bateau. L'approche par bateau parce que c'est une approche tranquille. Lente, hein, le bateau, ce n'est pas un moyen très rapide, même si on a des bateaux très compétitifs à l'heure actuelle, mais à côté du jet, c'est quand même l'escargot. Hein. L'approche par bateau au ras des flots, c'est-à-dire au ras du texte biblique, une approche lente des Écritures, en prenant son temps, sans vouloir avaler l'océan, n'est-ce pas? On avance sur l'océan, petit à petit, calmement, au ras des flots. Et j'ai fait pas mal de voyages en bateau en Grande-Bretagne pour des séries de conférences et je me souviens de ce temps paisible sur le pont pendant quelques heures où on peut être à l'écart, tranquille, réfléchir, méditer, prier et se préparer. Ce moment de rendez-vous quotidien avec Dieu, intimement lié à la prière. Et voyez-vous, nous parlons ici ce soir du béaba de la vie chrétienne. Et pourtant, actuellement, nous devons reconnaître que c'est un aspect qui est, hélas, terriblement oublié et négligé dans la vie de tant de disciples de Jésus-Christ. On se nourrit bien trois fois par jour, sinon plus parfois, Hein, mais en ce qui concerne la vie spirituelle, l'esprit, l'âme, l'être intérieur, quelle négligence. Quelle négligence. J'ai sous les yeux une petite anecdote qui m'a fait beaucoup de bien à ce sujet. C'était il y a un certain nombre d'années aux USA. Une station de radio qui reçut une lettre d'un berger qui vivait sur un ranch éloigné dans l'ouest des États-Unis. Et jamais jusque-là, cette station de radio n'avait reçu une requête aussi étrange. On pouvait lire simplement dans la lettre « S'il vous plaît, voulez-vous jouer un do sur le piano de votre studio ?» Je suis loin de tout piano et la seule consolation que j'ai, c'est mon violon. Mais il est présentement désaccordé. Voulez-vous jouer un do afin que je puisse le réaccorder? Je trouve ça très beau. Parce que c'est exactement cela, en fait, la définition de la méditation personnelle. Vous savez, sans cette méditation quotidienne, nos vies sont très vite des instruments désaccordés par rapport aux notes étalons, n'est-ce pas, aux notes de la pensée. Très vite nous désaccordons. Et vous savez, quand nous commençons à désaccorder d'avec la chorale d'en haut et les instruments d'en haut, nous désaccordons d'avec nos frères. Or, la parole de Dieu parle de l'importance d'une symphonie. Si deux d'entre vous symphonisent, dit Matthieu 18, hein, s'accordent, symphonisent dans la prière, il y a alors des répercussions et des promesses qui sont faites, mais à condition de vivre une symphonie dans la relation entre disciples de Christ. Mais notre symphonie dans l'Église dépend déjà en partie de notre méditation personnelle où nous accordons notre vie avec celle du Seigneur par le biais de sa parole. Quelqu'un a comparé l'art de la méditation au tir à l'arc. Se retirer le plus possible dans la présence de Dieu pour pouvoir être ensuite le plus efficace possible dans la pénétration du monde. Se retirer dans la présence de Dieu par sa parole pour ensuite pouvoir pénétrer le monde sans être du monde, n'est-ce pas, de la manière la plus efficace possible de sa part. C'est tellement, tellement important, la méditation. Qui joue, n'est-ce pas, sur notre vie de prière. Il n'y a pas de méditation des Écritures sans accompagnement de vie de prière. Et il n'y a pas de vie de prière équilibrée sans qu'elle soit nourrie de la parole de Dieu. C'est Adolphe Monod, que nous avons déjà cité hier, qui disait ceci: l'Écriture sainte, la parole de Dieu, c'est le ciel parlé. La prière, selon l'Écriture, est le ciel reçu au-dedans de nous par le Saint-Esprit. Sans la parole, la prière est nulle, n'ayant pas d'aliment. Sans la prière, la parole est impuissante et ne pénètre pas dans le cœur. Et je pense à Moody qui prêcha un jour un sermon, un message particulièrement émouvant à propos de la compassion de Christ. Et son auditoire avait été profondément touché et on lui demanda comment il avait préparé un tel message. Et il répondit simplement ceci: l'autre jour, je me suis mis à penser à la compassion de Christ. J'ai donc pris ma Bible et je me suis mis à lire pour découvrir ce qu'elle disait à ce sujet. J'ai prié sur ces textes tout en lisant jusqu'à ce que la pensée de la compassion infinie, de sa compassion infinie me subjugue. Je ne pouvais plus que m'étendre sur le plancher de mon bureau et pleurer comme un enfant, le visage dans ma vie. Voyez que cette parole de Dieu puisse vraiment s'incarner lorsque nous sommes en train de prier. L'art de la méditation, nous avons vu le psaume premier, nous relisons le début de ce psaume avec cette petite précision. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la murmure. Il faut bien mettre murmuré, parce que c'est là le texte hébreu. Et ce n'est pas le seul texte qui utilise ce terme. Si vous allez dans Josué au chapitre 1er et au verset 8, vous avez exactement dans ce verset central qui introduit Josué, Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, murmure-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et voyez-vous, dans la conception juive, la méditation simplement mentale ne se conçoit pas. On ne médite pas simplement là dans sa tête. Sa méditation, on l'exprime en murmurant le texte biblique, même discrètement, mais on l'articule, le texte biblique. Nous avons beaucoup à réapprendre dans le domaine de l'écriture des Écritures, nous l'avons dit à plusieurs reprises, et nous avons beaucoup à réapprendre dans le domaine du murmure de l'Écriture. Murmurer, dire, lire à haute voix. Combien cela fait du bien, d'autant plus que face au monde invisible, il y a là des prises de position de notre part qui peuvent être d'une importance stratégique. Alors, quel matériel utiliser? Il est conseillé généralement d'avoir de bonnes notes bibliques. Il existe donc des organismes qui mettent au service de l'Église des notes bibliques plus ou moins bonnes, mais rien n'est parfait sur la terre. Il faut considérer que les notes ne sont pas inspirées au même titre que les Écritures. Donc, on doit examiner là aussi toute chose et retenir ce qui est bon. Et surtout, on ne commence pas par lire les notes. Les notes ne sont qu'un petit support quand on a fait sa méditation. Elles peuvent apporter un élément de plus, une réflexion de plus, un mot d'ordre, une dimension à laquelle on n'a pas pensé. Mais on commence, n'est-ce pas? Donc on prie, c'est important, on se prépare, nous l'avons dit ce soir, on demande vraiment le secours du Saint-Esprit, on se présente devant Dieu avec le cœur bien disposé, et puis on lit à plusieurs reprises le texte en se posant un certain nombre de questions. Alors j'ai pris avec moi quelque chose qui est assez connu, mais que peut-être certains d'entre vous n'avez pas, qui peut être reproduit en X exemplaires par photocopie. C'est un texte questionnaire fait par la Ligue pour la lecture de la Bible qui est remarquablement fait et qui est à remplir. Vous avez donc pour chaque jour en recto verso un certain nombre de questions qui sont posées. Premièrement, demandez à Dieu de vous aider à comprendre la parole que vous allez lire. Disposez votre esprit à l'action de son esprit. Et il y a plusieurs indications. Lisez dans votre Bible le passage indiqué pour ce jour. Lisez-le une fois d'un trait, puis une seconde fois plus attentivement. Réfléchissez à ce que vous venez de lire. Troisièmement, cherchez le lien avec ce que vous avez compris hier. Répondez aux questions ci-dessous. Et vous avez toute une série de questions très pratiques. Et vous pouvez peut-être vous entraîner, si vous n'avez pas l'habitude, en utilisant une feuille de ce genre ou la photocopier en un certain nombre d'exemplaires, de manière à pouvoir, pendant un certain temps, jour après jour, prendre l'habitude de bien aborder un texte biblique, voyez, et vous avez toutes sortes de questions. Y a-t-il d'autres passages bibliques qui mettent à comprendre ce que j'ai lu? Alors je vais laisser ceci à votre disposition. Vous serez tout à fait libre de venir vous servir à la fin de la réunion, en pensant simplement que d'autres peut-être en ont besoin. Je laisserai volontiers ce qui restera à disposition de la communauté. On peut donc travailler avec des notes bibliques, et vous savez que le principe des notes bibliques, et ça doit être un principe clair pour nous, c'est que jour après jour, on prend un texte suivi par petits morceaux, comme on dit, par péricope, par petits paragraphes, éventuellement un chapitre, mais pas plus. Et donc, on réfléchit devant le Seigneur, on a un cœur avec lui, un tête à tête, on lui pose des questions. On cherche un mot d'ordre, un avertissement, une consolation, une directive, une promesse de la part de Dieu. On rectifie le tir dans sa présence. Tout ceci est très très important. On a peut-être à côté de soi un carnet avec un stylo pour noter peut-être une pépite d'or que Dieu vient de nous donner, une remarque particulière, un verset clé que l'on éprouvera peut-être le besoin d'apprendre même par cœur, copier sur une petite carte et de mettre dans la poche de son veston pour que dans la journée, de temps à autre, on puisse le ressortir, n'est-ce pas, et relire, Dieu puisse nous le remettre en mémoire. Et puis bien sûr, on enveloppe tout ça dans notre moment de prière personnelle, où on prépare sa journée devant le Seigneur. On peut se passer de notre biblique. Ça, c'est aussi une possibilité. Mais il faut avoir une certaine discipline. Si on se passe de notre biblique, alors il importe de choisir un livre dans la Bible. Et puis, jour après jour, on fait son face-à-face avec Dieu avec un chapitre de ce livre. En commençant au chapitre premier et en allant au dernier chapitre. Et puis, on note le livre qu'on a médité. Et puis, on prend un autre livre de manière à ce que, sur quelques années, on puisse avoir médité l'ensemble de la parole de Dieu. La règle d'organisme, comme la Ligue pour la lecture de la Bible, c'est de couvrir l'ensemble des Écritures, sauf un certain nombre de textes. On peut discuter là-dessus, mais en général, sur 5 à 7 ans. C'est pour la méditation, ceci, n'est-ce pas? Alors, je voudrais vraiment vous encourager. Si vous n'avez pas cette discipline personnelle, elle est d'une importance absolument capitale. Nous ne pouvons pas vivre sans ce moment. Moi, je ne peux pas envisager de vivre une journée sans avoir eu au moins ce temps de rencontre personnelle avec Dieu pour construire ma journée avec lui. C'est absolument fondamental. Et trop de croyants vivent un petit peu cas. Alors de temps en temps, ils sortent leur Bible quand ils ont le temps. Et le diable s'arrange toujours pour qu'on n'ait pas de temps. Hein? Et ça, il faut acquérir une discipline et y revenir tous les jours. Un disciple de Christ, bien sûr, la définition biblique n'est pas celle que je vous donne. La définition biblique fait du disciple un apprenti. Le terme grec signifie apprenti. Mais dans le terme français, il y a quand même une dimension très importante. Un disciple de Christ se doit au moins d'avoir une discipline personnelle. Et il reçoit par le Saint-Esprit la grâce d'exercer cette discipline pour pouvoir avancer. Nous l'exerçons sans aucun problème dans le domaine de l'alimentation de notre corps. Hein. Alors on peut faire un effort dans le domaine de l'alimentation de notre cœur. Et vous verrez combien cela nous aide dans le domaine de la prière. Prenez les grandes prières de la Bible. Prenez les prières de Daniel, d'Esdras, de Néhémie, le cantique d'Anne, le cantique de Marie et tant d'autres cantiques des Écritures. C'est incroyable ce que ces femmes et ces hommes de Dieu étaient imprégnés du message de l'Ancien Testament. Ils priaient littéralement la Bible. On a relevé, par exemple, que dans le cantique de Marie, de Luc 1, 46 à 55, 102 mots. Et sur ces 102 mots, 62 sont empruntés à l'Ancien Testament, respectivement au Cantique d'Anne, à Ésaïe, à Michée, à Habacuc et à non moins de 5 psaumes. Moi, je comprends pourquoi Dieu a choisi Marie dans sa grâce pour l'incarnation du Fils de Dieu. C'était une craignant Dieu au sens le plus beau du terme. C'était une femme de Dieu, toute humble, ayant besoin de salut et de pardon de ses péchés, mais qui était attachée à la parole de Dieu, aux Écritures, qui était toute imprégnée du message de l'Ancien Testament, au point que ça se respirait dans sa vie de prière personnelle et en public. Et puis Tommy Fallot, un homme de Dieu remarquable, a écrit ceci: pour apprendre à bien prier, rien de tel que les psaumes. Lorsque votre cœur est plus sec qu'une rivière sans eau, que vous voulez prier et que vous n'y parvenez pas, prenez votre Bible, cherchez un psaume qui convienne à votre situation, lisez-le lentement, répétez-le en vous servant des paroles que vous prononcez pour y envelopper vos propres requêtes. Voilà plus de 35 ans que j'use ainsi des psaumes. Dans quelque état d'âme que je me sois trouvé, ils ne m'ont pas laissé sans secours. La force de la prière est liée à la méditation des Écritures. Pensez à Daniel. Nous avons évoqué Daniel cet après-midi. La place que la parole de Dieu occupait dans sa vie de prière. Prenez un échantillon, un tout petit échantillon de la vie de prière de Daniel. Hein. Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9, dans les tout premiers versets, ça se situe pratiquement au même moment que l'histoire de la fosse au lion, du chapitre 6. Hein, dans le chapitre 6, ça se situe tout à fait dans la même période. Daniel n'est plus du tout un jeune homme, comme on le croit. Vous savez que généralement, on présente des images d'Épinal à ce sujet. Dans le matériel d'école du dimanche, quand on présente Daniel dans la fosse au lion, c'est un joli jeune homme. Dans le texte biblique, il a 84 ans au moins. Ça fait quand même une drôle de différence. Hein, voilà. Et il y a donc tout un enseignement très différent à apporter que celui qu'on donne parfois. Il y a un défi lancé aux personnes âgées. Il y a un message là, fantastique. Alors Daniel 9 appartient tout à fait à la même période, la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette C'est fantastique. Voilà, il a pratiquement là 68 ans d'exil derrière lui, Daniel. Et il a au moins autant, sinon plus, de marche avec le Seigneur. Puisque très tôt, il a commencé vraiment à marcher avec le Christ sous l'influence d'un certain nombre d'hommes et de femmes de Dieu de son enfance. Or ici, nous sommes en 539 avant Jésus-Christ à peu près. Que fait Daniel? Il connaît les prédictions, les prophéties de son père spirituel, Jérémie. Et il sait que Jérémie, de la part de l'Éternel, a clairement annoncé que l'exil durerait 70 ans. Alors, c'est très simple. Il dit, écoute Seigneur, je fais partie du premier lot des déportés. J'ai été déporté en 606 avant Jésus-Christ. J'ai été parmi les tout premiers. Personne d'autre n'a été déporté avant nous. Nous sommes en 539. 606 moins 539, 67, 68 ans. Tu as dit 70 ans. Seigneur, dans 2 ans, ta promesse, plusieurs fois réitérée de la bouche du prophète Jérémie, doit s'accomplir. Alors, Seigneur, ce que je te demande, c'est que tu travailles au sein de ton peuple. Et pour cela, je me solidarise avec mon peuple pour te confesser nos péchés. Nous sommes coupables. Et crée, Seigneur, un esprit de repentance et d'humiliation. Change quelque chose. De manière à ce que quand tu vas intervenir pour le retour du peuple, selon ta promesse, vraiment ton peuple soit obéissant. N'est-ce pas? Voilà un homme de Dieu qui a appris à marier la vie de prière à la parole de Dieu. Et c'était vraiment l'homme de Dieu de la méditation des Écritures. Et vous savez comment il était appelé hein, par Dieu? Homme bien-aimé. Il a été l'homme bien-aimé de Dieu. Daniel chapitre 6, verset 10, n'est-ce pas? 3 fois par jour. Cet homme de Dieu, octogénaire, s'agenouillait dans sa chambre haute et les yeux dans la direction de Jérusalem, fenêtre ouverte dans cette direction, il priait, il invoquait, il suppliait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Voilà un homme de Dieu qui avait une discipline personnelle depuis des dizaines d'années. Il rencontrait son Dieu régulièrement. Or, c'était un grand ministre, un ministre d'État, un homme qui avait beaucoup de boulot, qui avait des journées extrêmement chargées, de terribles responsabilités, des collègues de travail qui lui ont mis toutes les entraves possibles, n'est-ce pas? On ne peut pas dire qu'il avait une vie facile. Mais ce ce principe spirituel dans sa vie personnelle. Et la répercussion jusqu'à nous aujourd'hui, nous sommes au bénéfice du témoignage exemplaire de Daniel. C'est Georges Müller, cet homme de Dieu qui a donc élevé, sans le concours de la sécurité sociale, quelques 10 000 orphelins pendant son ministère à Bristol. Et Georges Müller qui disait ceci: la vigueur de notre vie spirituelle est fonction de la place que la Bible occupe dans notre vie et dans nos pensées. Je dis cela solennellement, après en avoir fait l'expérience depuis 54 ans. Pendant 3 années après ma conversion, j'ai négligé la parole de Dieu. Mais depuis que je la lis avec soin et avec attention, la bénédiction a été merveilleuse. J'ai lu la Bible en entier 100 fois et toujours avec une joie plus grande. Elle me semble chaque fois être un livre nouveau. Je considère comme une journée perdue celle où je n'ai pu passer quelques bons moments avec la parole de Dieu. Oh, j'aimerais vous poser la question ce soir. Combien de journées avons-nous perdues? Selon l'expression de Georges Müller. Combien de journées avons-nous perdu? Mes amis, si dans toutes nos églises évangéliques, nous redevenions le peuple de la parole de Dieu, ça bougerait. Ça bougerait. On prie beaucoup pour le réveil sous toutes les sauces possibles et imaginables. Il n'y a pas de véritable réveil qui soit associé à une restauration de la doctrine, au retour de la parole de Dieu au centre de notre vie personnelle. Mes amis, oh que nous revenions à l'essentiel. Je demande à Dieu de créer chez nous cette soif de revenir à l'essentiel. Et nous n'avons pas d'excuses devant Dieu. Nous n'avons pas d'excuses. Nous sommes coupables devant Dieu. Nous sommes coupables. Parce que vous savez que quand nous sommes motivés pour quelque chose, nous sommes capables de faire. Des gens qui donnent des heures et des heures en dehors de leur temps de travail à de l'éphémère. Nous n'avons pas l'éphémère. Nous avons le ciel dans nos mains. La parole de Dieu, c'est le ciel entre nos mains. Nous avons déjà un coin de ciel dans notre cœur quand nous sommes au contact des Écritures. Alors, je ne voudrais pas que nous soyons saturés. Nous avons une journée riche demain. Nous allons nous arrêter là. Demain matin, nous allons nous attacher à la deuxième approche personnelle de la parole de Dieu, complémentaire à la première, qui nous fera du bien aussi. Mais, oh Dieu veuille que, par le ministère du Saint-Esprit en nous, nous acceptions de remettre nos priorités en question. Déjà, dans ce domaine, du cœur à cœur, Seigneur, notre Dieu, tu lis dans nos cœurs, tu vois nos vies, tu vois même tout ce que les autres ne voient pas, tu lis nos interrogations, tu lis notre combat, tu lis aussi la contestation de l'ennemi qui n'aime pas ceux qui se centrent sur toi par le moyen de ta parole et dans la prière. Mais Seigneur, ce que nous te demandons, c'est de travailler dans nos cœurs. Nous savons que tu le fais avec une telle délicatesse et en respectant nos personnes. Mais nous te demandons, Seigneur, que nous nous laissions irrésistiblement entraîner, conduire par le Saint-Esprit dans un amour pour ta parole et pour ta personne par le moyen de ta parole. Seigneur, qu'elle devienne prépondérante, qu'elle occupe une place comme jamais auparavant, et que cela rejaillisse sur notre activité quotidienne, sur notre langage, sur nos attitudes, sur nos réactions, sur notre regard, sur les événements, les circonstances, les personnes, sur nous-mêmes, sur la qualité de notre vie d'église, sur nos relations les uns avec les autres. Oh, quel bonheur si nous pouvions vivre des cultes où chacun viendrait te rencontrer avec les autres après t'avoir rencontré tout seul. Ô Seigneur, donne-nous cette nostalgie d'un coin de ciel sur cette terre si sombre dans nos relations avec toi et les uns avec les autres, pour que ceux qui nous entourent et qui sont dans les ténèbres se rendent compte que nous marchons dans la compagnie d'un Dieu extraordinaire et qu'ils soient convaincus que nous vivons quelque chose de difficile, d'exigeant, mais de beau, porté par toi, mais mettant aussi en action les volontés que tu nous as données dans la direction de la tienne. Merci d'appliquer ce que nous avons partagé à chacun de nos cœurs. Raccompagne-nous. Merci pour le renouvellement de nos forces physiques, spirituelles, intellectuelles. Seigneur, merci pour tes promesses à ce sujet. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent ou échangent leurs forces. Et nous voulons ce soir échanger nos fatigues, nos difficultés, nos limitations, nos infirmités contre ta force. Merci de bien vouloir nous renouveler pour que la journée de demain soit pour nous ici un ciel ouvert, afin qu'ensuite le ciel puisse s'ouvrir pour ceux qui ont tant besoin de toi autour. Merci Seigneur de nous entendre en Jésus.